Il est 18h30 à Paris, la suite sur RFI, c'est le débat du jour avec Romain Ouzoui.
Merci Clotilde Dumais, on va parler de la Turquie ce soir dans le débat du jour.
Le débat du jour. Romain Ouzoui.
La Turquie annoncée grande gagnante de la chute du président syrien Bachar al-Assad et qui s'est précipitée d'ailleurs pour rouvrir son ambassade à Damas. C'était samedi dernier, la Turquie décidément qui a le vent en poupe, puisque dans un tout autre dossier, également la semaine dernière, eh bien elle a annoncé un accord entre l'Éthiopie et la Somalie, preuve du poids grandissant d'Ankara actuellement. D'où notre question ce soir, la Turquie est-elle incontournable? S'affiche-t-elle comme un géant géopolitique de demain? Comment peut-elle tirer profit de la situation en Syrie? Comment peut-elle tisser sa toile au Moyen-Orient et au-delà? Eh bien, soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités à mes côtés en studio, Behram Balsi, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes chercheur au CERI Sciences Po. Nos deux autres invités sont en ligne avec nous. Bonsoir, Marc Pirini.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur au think tank Carnegie Europe, ancien diplomate européen. Vous étiez notamment représentant de la Commission européenne en Syrie, en Libye, en Tunisie et en Turquie, justement. Gilles Doronsoro, bonsoir.
Bonsoir.
Notre troisième invité, également en ligne, professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, spécialiste des conflits contemporains. Votre ouvrage, Anatomie d'une guerre civile. Merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat de jour sur RFI. Première question, Behram Balsi. Que sait-on du rôle que la Turquie a eu dans la chute du régime syrien? Est-ce qu'on peut affirmer que c'est la Turquie qui a permis la victoire de HTS, faut vous appeler comme vous voulez?
Alors, effectivement, la Turquie a joué un rôle considérable dans la victoire de l'opposition, pour plusieurs raisons. D'abord parce que depuis 10 ans, 12 ans, même 13 ans, c'est le pays qui est le plus engagé pour la chute, qui œuvre pour la chute de Bachar. C'est le pays qui soutient le plus l'opposition, de plusieurs manières, au niveau économique, logistique, militaire, à tous les niveaux. Et quelque part, je pense que la Turquie est en train de récolter les fruits de ce qu'elle a fait depuis 10 ans. Mais ces dernières semaines, je serais d'avis de dire en fait qu'elle-même, elle a été surprise par la rapidité et la réussite de cette reconquête par l'opposition, parce que je pense qu'il y avait aussi des dynamiques internes qu'il ne faut pas oublier, certes, et c'est important de le souligner pour comprendre ce qui va se passer dans les semaines à venir en Syrie. Mais effectivement, comme on l'avait dit tout à l'heure, elle montre à quel point elle a un rôle clé, et je pense que dans les semaines à venir, dans les mois à venir, pour la reconstruction de la Syrie, elle aura un rôle incontournable et il faudra faire avec.
Est-ce que c'est un soutien de HTC parce qu'elle elle soutient l'opposition? Alors, historiquement.
Oui, non,
mais...
c'est-à-dire qu'en fait, si vous regardez bien, en fait, la reconquête de pouvoir, l'arrivée au pouvoir, donc la chute de Bachar, elle est l'œuvre de deux principaux mouvements. D'abord HTS, donc effectivement, mais l'autre, celle qui est liée à la Turquie, l'armée nationale syrienne. Avec HTS, la Turquie a une relation un peu complexe. Elle avait une relation très compliquée, c'est-à-dire que sans être en bon terme avec cette organisation, ne serait-ce que parce qu'ils sont voisins à aider, elle est obligée de composer avec et de le soutenir, de les protéger contre l'aviation de Bachar et de Poutine, parce que pour elle, c'était aussi le moyen de ne pas avoir de nouveaux flux de réfugiés en Turquie. Par contre, avec la deuxième composante de la reconquête, avec l'armée nationale syrienne, c'est un fait. C'est la Turquie qui les soutient, qui les aime depuis le début, elle les entraîne. Elle a réussi à en faire un acteur beaucoup plus discipliné, parce qu'au départ, ils ne le sont pas du tout, malheureusement. Et je pense que là, depuis quelques jours, elle améliore aussi ses relations avec HTS. Et d'ailleurs, on l'a vu à Damas, on a vu Jolani. Il y a les images, bien sûr qu'il est en Turquie. On a vu Jolani conduire lui-même une voiture dans laquelle il y avait le ministre des Affaires étrangères, Hakan Fidan, et aussi Ibrahim Kalın. Donc, ça montre à quel point la Turquie est déjà dans le coup. Elle a déjà un rôle fondamental dans ce qui va se passer en Turquie.
Donc pour nos auditeurs HTS, pour rappel, ce sont les rebelles qui ont pris le pouvoir en Syrie, et l'armée nationale syrienne que vous évoquez, c'est cette armée qui est supervisée par la Turquie et qui affronte les FDS, les forces démocratiques syriennes, qui est cette coalition arabo-turque composée majoritairement de Kurdes, et qui a été mise en place, notamment qui est chapeautée par les États-Unis, pour lutter contre le groupe État islamique.
Effectivement, mais pour l'instant, l'essentiel, les grands enjeux, pour l'instant, c'est encore à Damas, dans la partie contrôlée par les Kurdes. Il n'y a pas encore d'affrontement, mais justement, la grande question, c'est que va devenir cette région contrôlée essentiellement par les Kurdes. Et je pense que ça fait partie des grandes tractations entre la Turquie, les États-Unis et les autres puissances. Mais pour l'instant, je pense que la priorité, c'est quand même pour le pouvoir en place, c'est d'asseoir son pouvoir à Damas et ensuite de reconstituer la Syrie. et le travail colossal, parce que le pays a été ravagé par 13 ans de conflit, et il y a un travail considérable. Je pense qu'il faudra aussi que la communauté internationale soutienne ce pouvoir, malgré ce qu'il est. Effectivement, il est issu de mouvances islamistes, au départ radicales, qui sont de moins en moins radicales, et je pense qu'il faut faire avec.
La question kurde, évidemment, elle va être importante. Marc Pirini, quel peut être, pour poursuivre ce que dit Behram Balci, quel peut être le rôle de la Turquie dans la Syrie de demain, selon vous ?
Bien, la Syrie, elle a d'abord un objectif primordial qui est d'assurer la sécurité de sa frontière avec la Syrie. Comme vous savez, les forces turques sont présentes dans 4 régions distinctes. Elles auraient voulu occuper une autre 5e région, mais les Russes y sont opposés. Maintenant, les Russes ne sont plus là, ou en tout cas presque plus là. Donc, la sécurité de la frontière sur 30 kilomètres, voire plus dans les provinces d'Idlib et d'Afrin, reste la priorité absolue puisque la Turquie veut séparer les YPG, donc la branche armée du pouvoir kurde, et sa connexion avec le PKK turc. Donc ça reste l'option première. L'autre option, c'est comme on vient de le dire, la Turquie a immédiatement réouvert son ambassade, est arrivé de façon assez spectaculaire à Damas avant même le Qatar et tout autre envoyé américain, britannique, français ou de l'Union européenne, qui sont seulement en train de se mettre en place maintenant et à un niveau inférieur. Donc la Turquie mise, disons, énormément sur une fraternité avec le nouveau pouvoir syrien.
Alors justement, comment peut se concrétiser cette fraternité ? Les premiers mots, je dirais, des autorités turques envers le nouveau régime syrien, il y a quelques jours, elle s'est dit prête à fournir de l'aide militaire si le nouveau gouvernement syrien lui demandait. Est-ce que HTS est capable de coopérer, jusqu'à quel point, avec la Turquie, sachant qu'encore une fois, c'est une forme d'opposition syrienne, c'est à l'opposé du régime de Bachar al-Assad. Comment est-ce que le HTS peut coopérer, selon vous, avec la Turquie ?
Alors, il y a trois déclarations de la Turquie. La première qui est calquée sur celle de Gulani, ou celle de Gulani était calquée sur celle de la Turquie, comme on voudra, c'est la tolérance envers toutes les composantes ethniques et religieuses. Ensuite, ça, c'est parfait. Ensuite, ça parle d'intégrité territoriale, c'est parfait sur le papier, c'est ce que dit aussi les Nations Unies, la réunion d'Aqaba hier, etc. Sauf que c'est un peu bizarre de parler depuis Ankara d'intégrité territoriale alors qu'il y a des troupes turques dans 4 districts de la Syrie. Bien. Le pouvoir précédent, Bachar al-Assad, avait refusé de renouer le dialogue avec la Turquie tant qu'il ne retirait pas toutes leurs troupes. Que va dire Monsieur Al-Julani, devenu Monsieur Al-Shara, et son gouvernement, sur ce sujet-là, on n'en sait rien pour le moment, mais il y a quand même fort à parier qu'il y aura une petite difficulté. Sur la coopération militaire, il va peut-être falloir attendre un petit peu, notamment parce qu'il y a des forces qui ont coopéré avec divers acteurs extérieurs, donc on ne sait pas encore où tout cela va retomber. Mais il est tout à fait clair que la Turquie, y compris, comme vous l'avez dit, en offrant une coopération militaire, va vouloir être au premier rang des partenaires extérieurs de la nouvelle Syrie.
Puisque la question kurde elle est très importante pour la Turquie, est-ce qu'on peut imaginer, Marc Pirini, que la Turquie compte sur HTS pour repousser les forces kurdes ? Puisque c'est la grande inquiétude de la Turquie concernant la Syrie, c'est qu'il y a un État autonome qui soit créé en Syrie, un État autonome kurde.
Oui. Alors, il y a pour le moment, la région kurde est administrativement autonome, s'appelle le Rojava, mais effectivement, l'obsession, si je puis dire, turque, c'est de faire en sorte que les milices armées kurdes syriennes soient désarmées et que leurs chefs sortent du pays. Il y a 2 jours, le ministre des Affaires étrangères à Canfidan a même dit « et que les chefs sortent de Syrie, même s'ils sont syriens eux-mêmes ». Ça va peut-être être un petit peu difficile. Par ricochet, cette volonté, en espérant qu'elle ne débouche pas sur une hostilité entre forces turques et ses proxys et forces kurdes, ça va créer un problème entre la Turquie et les États-Unis, puisque, comme chacun sait, il y a dans l'Est syrien 900 forces spéciales américaines, accompagnées de quelques autres Européens, qui ont pour mission, eux, d'éliminer les restes de l'État islamique, qui se trouve aussi au centre de la Syrie, de l'autre côté de l'Euphrate, donc oui, pour, les Américains.
Pour faire simple, les États-Unis soutiennent des FDS, qui sont les forces kurdes, pour que les auditeurs nous suivent. Donc évidemment, ça contrarie la Turquie.
Voilà, et ils agissent de concert avec les forces kurdes pour bombarder et éliminer l'État islamique. Donc, vous avez là des objectifs qui sont un petit peu antagonistes, si vous voulez. Il va falloir résoudre tout ça. Les États-Unis y travaillent en ce moment, notamment à travers la visite de Tony Blinken à Ankara il y a quelques jours.
Alors, c'est intéressant la position américaine, Gilles Doron-Soro. On ne vous a pas encore entendu. Quelles peuvent être les relations, alors justement avec cet enjeu des Kurdes, quelles peuvent être les relations à venir de la Turquie avec les États-Unis? C'est intéressant parce qu'il y a quelques minutes, Donald Trump a dit que la Turquie avait, je cite, réalisé une prise de contrôle inamicale de la Syrie. Et effectivement, en fait, l'enjeu est important parce que c'est ce qu'expliquait Marc Pirini. Les États-Unis, encore une fois, chapeautent cette coalition des FDS qui est arabo-turque, qui est pro-kurde. Et effectivement, ce sont les ennemis de la Turquie. Et pour autant, la Turquie n'est pas ennemie des États-Unis. C'est cet exercice d'équilibriste qui est compliqué pour Ankara, non ?
Alors, ce n'est pas pour Ankara que c'est compliqué, c'est pour les États-Unis. Les États-Unis, en fait, sous des noms différents, soutiennent depuis des années le PKK, qui est un mouvement terroriste du point de vue des États-Unis, et c'est un mouvement qui attaque régulièrement la Turquie. C'est là qu'il y a un problème, c'est là qu'il y a une contradiction dans la politique américaine. Alors maintenant, oui, il va y avoir une épreuve de force. Là, pour le moment, les États-Unis, en déplaçant leurs troupes, notamment vers Kobané, vers la frontière, ont voulu stopper l'offensive des forces pro-turques contre les milices kurdes. Donc là, on en
parce
est
que,
là.
Encore une fois, je voudrais pas que l'auditeur soit perdu. Il y a eu effectivement, quasiment parallèlement avec la chute du régime syrien, une offensive pro-turque effectivement dans ces régions à domination kurde. Et voilà.
Et en fait, si vous voulez, il est clair que les forces directement contrôlées par la Turquie n'ont pas contribué à la chute de Damas. C'est uniquement HTS qui a foncé vers le sud et vers Damas. Les forces sous contrôle de la Turquie ont immédiatement attaqué les zones contrôlées par les milices kurdes. Donc voilà, donc maintenant, on a deux possibilités. Soit c'est la position de la Turquie qui l'emporte, c'est-à-dire réunification du territoire syrien, désarmement du PKK et expulsion des cadres du PKK. Ça permet la réunification du territoire syrien. Soit c'est la position qui est évidemment plutôt celle des États-Unis, mais aussi probablement l'acteur qu'on n'a pas mentionné jusqu'ici, mais qui est l'acteur central, c'est Israël. Auquel cas, on aurait plutôt une volonté de maintien d'une division de la Syrie avec une partie sous contrôle des forces kurdes appuyées par les États-Unis et une partie qui serait contrôlée par le nouveau régime qui va se mettre en place. Donc, les États-Unis ont véritablement un choix à faire dans leur stratégie, soit maintenir une division du pays, soit favoriser la réunification. Comme la politique américaine est généralement très chaotique au Moyen-Orient et comme le nouveau pouvoir de Trump n'est pas encore installé, pour le moment, ça reste assez ouvert. Mon intuition, à voir les éditoriaux qui se multiplient à la fois dans la presse américaine conservatrice et dans les médias israéliens, c'est plutôt que les États-Unis vont essayer de maintenir une division de l'espace syrien, parce que notamment c'est la position israélienne. Mais ça, on le saura dans les mois qui viennent. Mais
est-ce qu'ils vont maintenir une présence militaire? Parce que là, il y a, je crois, 900 environ soldats qui sont en Syrie. Est-ce que Donald Trump va retirer ces troupes-là? Ce qui changerait complètement la donne, parce que ça veut dire en fait que les États-Unis lâcheraient entre guillemets les Kurdes, ce qui ouvrirait le champ à la Turquie.
Non, ça ouvrirait pas le champ à la Turquie. En fait, Si les troupes américaines se retirent, c'est le côté isolationniste de la politique de Trump, enfin c'est ce qu'il a annoncé, auquel cas vous allez avoir une réunification du territoire syrien et éventuellement un démantèlement des forces turques sur le territoire syrien et une réunification de la Syrie. C'est un premier scénario. Si les États-Unis restent, vous allez avoir le maintien de la division. Alors, savoir quelle est la politique qui va être finalement adoptée par Trump, à ce stade-là, c'est extrêmement compliqué, puisque Trump a eu deux déclarations contradictoires. Une première déclaration en disant que, en termes d'ailleurs assez colorés, que la Syrie, ce n'était pas une priorité pour les États-Unis et que finalement, il n'aurait pas grand-chose à faire de la Syrie. Et puis, une deuxième déclaration, une série de deuxièmes déclarations qui vont plutôt dans le sens du maintien d'une alliance avec les forces du PKK. Donc on est là dans une situation ambiguë. Il y a un autre élément qui va probablement être aussi important, c'est qu'en fait, les milices liées au PKK ne contrôlent pas que des régions kurdes, mais contrôlent aussi des régions arabes, à la demande des États-Unis. Et là, il est peu probable que les populations arabes, qui sont en fait numériquement majoritaires dans ces régions, vont accepter de continuer à dépendre d'un pouvoir kurde, alors qu'elle pourrait très bien se rallier, moyennant négociation, avec le pouvoir qui est en train de se reconstituer à Damas. Donc, les États-Unis ont une marge de contrôle, une marge de manœuvre, mais ils ne peuvent pas tout contrôler sur le terrain non plus.
La Turquie est-elle incontournable? La question qu'on pose ce soir dans le débat du jour, la Turquie qui a été un des premiers pays à rouvrir son ambassade à Damas après la chute du président syrien Bachar al-Assad. On en parle avec mes trois invités. Gilles Doron-Soro, que l'on entendait, qui est professeur de sciences politiques à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Marc Pierini, ancien diplomate européen, chercheur au Carnegie Europe, qui est un think tank américain, ancien représentant de la Commission européenne dans plusieurs pays, dont la Turquie. Et Behram Balsi, qui est à mes côtés en studio, chercheur aux séries Sciences Po. Alors, on a bien évoqué le grand enjeu des forces kurdes pour la Syrie, et effectivement, c'est central parce que pour la Turquie, puisque la Turquie observe ça de très près, parce qu'elle craint dans le nord du pays cette présence de ces forces kurdes, qu'elle craint que ça ne conduise à la construction d'un État autonome qui menacerait la sécurité de la Turquie. J'aimerais avec vous, Behram Balsi, qu'on prenne un peu plus de hauteur, parce qu'on parle du poids géopolitique, pas uniquement sur cette question kurde, même si elle est essentielle, de la Turquie. Est-ce que justement cette question kurde, il y a le mot obsession kurde qui a été évoqué. Est-ce que c'est une obsession? Est-ce que ça entrave la marche en avant de la Turquie sur d'autres sujets? Alors, parce qu'encore une fois, on rappelle les atouts de la Turquie, membre de l'OTAN, mais malgré tout proche de la Russie, c'est aussi le paradoxe turc. Et puis on va évoquer aussi tous les autres sujets qui montrent le poids géopolitique de la Turquie actuellement.
Alors, j'aimerais à ce titre, à ce sujet, faire quelques remarques. D'abord, premièrement, je pense que, comme l'a dit tout à l'heure Gilles, il est possible que les Américains optent pour une espèce de morcellement du pays avec une région autonome kurde. Mais je pense que ce serait vraiment très difficile parce qu'en fait, une région autonome kurde sans la base de la Turquie, ça ne pourra jamais marcher. D'ailleurs, on le voit bien, il y a une région kurde autonome en Irak et elle a pu marcher parce qu'elle a des bonnes relations avec la Turquie. Elle a pu avoir des bonnes relations parce qu'en fait, Barzani n'a jamais été en guerre avec la Turquie. Les Kurdes d'Irak n'ont jamais tué des gens en Turquie. Donc à ce titre, ça a marché. Pour ce qui est de la Syrie, c'est compliqué. Et en fait, depuis le début de la crise syrienne, la Turquie n'a jamais été contre une autonomie kurde en soi. Mais ce qui dérange le plus la Turquie, c'est qu'en fait, cette autonomie soit confiée à une organisation qui est le PKK, qui est en lutte, qui est une organisation
classée comme terroriste par la Turquie.
Tout le monde par la Turquie, par les partenaires de la Turquie. Et en fait, c'est surtout ça qui dérange la Turquie. Or, le problème, c'est qu'en fait, depuis le début de la guerre, on souligne, tout le monde demande à ce que les forces qui font de l'ingérence en Syrie se retirent, comme la Russie, comme l'Iran, comme le Hezbollah. Mais on oublie de mentionner aussi le PKK, qui effectivement, même s'il y a des Kurdes en Syrie, en fait, de fait, le PKK est une structure étrangère à la Syrie et il est normal qu'elle se retire. D'autant plus que s'il n'y a pas, je veux dire, une région autonome kurde en Syrie, elle aura forcément une frontière avec la Turquie, une ouverture vers la Turquie. Et de ce fait, s'il n'y a pas la balle d'Ankara, ça ne pourra jamais marcher. Et je pense que les Américains, tôt ou tard, ils vont le comprendre. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'en fait, au début de la crise syrienne, je me souviens très bien d'une déclaration de Ahmet Davutoğlu, qui était à l'époque le ministre des Affaires étrangères, il avait dit s'il y a une nouvelle Syrie qui accepte une région un peu autonome kurde avec la Wadi syrien, mais que ça ne s'inscrit pas contre la Turquie, nous, on n'a pas d'inconvénient. Mais le problème, la difficulté, c'est qu'en fait, c'est contrôlé par le PKK. Et comme l'a dit tout à l'heure Gilles, c'est une région, la région kurde sous contrôle du PKK, elle dépasse aussi largement les régions de peuplement kurde. Et par ailleurs, c'est-à-dire qu'au début, l'alliance, le soutien apporté par les Américains contre le PKK, la priorité, c'était l'objectif, la raison d'être, c'était qu'il y ait un combat contre Daesh. Or, on a bien vu, en fait, que le PKK a aussi utilisé l'armement donné par les États-Unis, par un pays de l'OTAN, dans une guerre contre un autre pays de l'OTAN. C'est-à-dire qu'il y a, vous voyez, il y a des jeunes, des soldats turcs qui ont été tués par une organisation comme celle du PKK, avec de l'armement qui est donné par un pays de l'OTAN.
Est-ce que vous diriez, on va essayer d'évoluer et de prendre un peu de hauteur, sortir cette question kurde, est-ce que vous diriez que la Turquie possède une troisième voie géopolitique? Elle n'est pas alliée avec la Russie, ou la Chine, elle n'est pas alliée avec les États-Unis ou l'Union européenne, et elle a un poids géopolitique considérable?
Oui, mais je pense qu'elle a aussi, j'ai l'impression en fait que depuis quelques années, ça fait même 10-15 ans qu'on parle d'un shift de la Turquie qui va beaucoup plus à l'est, qui se rapproche des pays autoritaires, la Russie, la Chine,
donc l'Iran. Donc plus asiatique qu'européen.
Plus asiatique, moi aussi, je pense que quelque part, c'est aussi pour deux raisons. D'abord parce que ses partenaires de l'Occident n'ont pas su la retenir, ça aussi. Et la guerre en Syrie a bien montré en fait que ben, finalement, en fait, la Turquie a été laissée seule pour gérer la crise syrienne avec deux pays, avec deux dirigeants pas faciles, le dirigeant iranien, les Iraniens et les Russes. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'en fait, la Turquie a le sentiment en fait, que ses propres intérêts sécuritaires sont davantage compris, pris en considération par des pays qui ne sont pas de ses propres alliés, comme la Russie. Et en Russie, par exemple, les incursions militaires de la Turquie en Syrie, qui étaient, à mon sens, inévitables pour la sécurité de la Turquie, en fait, elle a eu l'aval de la Russie. Les Occidentaux étaient contre, ils ont armé le PKK, ils n'ont pas tenu compte des soucis sécuritaires de la Turquie. Voilà. Ça a donné cette contradiction. Et enfin, pour finir là-dessus, la Turquie depuis une dizaine d'années, elle est à la recherche d'une autonomie stratégique parce que c'est cette option qui lui permet de défendre ses intérêts. Elle est effectivement ni à l'est ni à l'ouest, dans les deux, mais c'est aussi une attitude qui devient possible grâce au fait qu'on a une scène internationale qui n'est plus bipolaire, qui est multipolaire. Il y a des nouveaux pôles de puissance qui émergent partout. Et la Turquie ne fait que profiter de cette nouvelle situation des relations internationales.
Et l'autonomie stratégique, ça concerne évidemment la Syrie, pour laquelle la Turquie, évidemment, est candidate à la reconstruction. C'est un grand enjeu. Marc Pierini, on a évoqué les relations entre la Turquie et les États-Unis. Quelles peuvent être les relations à l'avenir entre la Turquie et la Russie? Parce qu'on a entendu ce qu'a dit Berem Belsi, mais... évidemment, la Russie, c'était le soutien de Bachar al-Assad. La Turquie a soutenu l'opposition. Et il y a le président turc, le jour de la chute de Bachar al-Assad, Recep Tayyip Erdogan, qui a dit « Aujourd'hui, il y a deux grands dirigeants dans le monde, en gros, Poutine et moi ». Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ?
Oui, enfin, ça, c'est la présentation du président turc, qui est toujours un petit peu exagérée sur ce plan-là. Mais voyons la réalité. D'abord, la Russie en Syrie n'existe plus. Elle part, elle n'est pas tout à fait partie parce que les armements lourds, ben c'est très long à évacuer, mais le pouvoir à Damas a indiqué aujourd'hui qu'il ne voulait plus aucun soldat russe sur le territoire. Bien, ensuite, c'est très gentil de parler de l'influence turque, l'influence russe, etc., mais en fait, la structuration du pouvoir en Syrie, elle dépend d'abord du nouveau pouvoir syrien qui est en place avec un homme fort, Al-Julani ou Al-Shara, comme on voudra, et un premier ministre qui l'a désigné de façon temporaire jusqu'au 1er mars. Reste à voir. Donc, la déclaration de principe de ce nouveau pouvoir, c'est « Nous sommes inclusifs envers toutes les composantes de la société turque ». Ce qu'ils n'ont pas dit encore, c'est « Quelles sont les composantes de la société syrienne, qui vont être admises à exercer le pouvoir ?» Donc, si cette déclaration sur l'inclusivité se traduit par une constitution ou en tout cas un arrangement gouvernemental qui fait que les Druzes, les Turkmènes, les Kurdes, les chrétiens participent au pouvoir, ça sera beaucoup plus solide que si c'est simplement un pouvoir qui émane du HTS.
Ça augure quoi, des relations entre la Turquie et la Russie? J'aurais qu'on avance.
Entre la Russie et la Turquie, le jeu n'est pas là. Le jeu, il est lié à la guerre en Ukraine et au fait que la Russie a réussi à vendre des missiles de moyenne portée à la Turquie qui ont affaibli le système défensif de l'OTAN. Donc là, il y a une ambivalence qui est là, qui va s'aggraver ou s'amenuiser selon comment la crise ukrainienne évolue.
J'ai Behram Balsi qui lève la main. Je voudrais vous poser une question parce qu'encore une fois, on approche de la fin du débat. Est-ce que, d'un mot, la Turquie est un géant géopolitique de demain? C'est la question que je posais. Au Moyen-Orient, est-ce qu'elle peut entraver notamment la marche en avant d'Israël? C'est une chose qu'on peut poser. Et au-delà, on n'a pas encore parlé de cet accord que la Turquie a annoncé entre la Somalie et l'Éthiopie. Qu'est-ce que la Turquie vient faire sur ce terrain-là?
Alors, d'abord, sur la Russie. Je pense que la Turquie et la Russie, depuis quelques années, on a ici en Occident le sentiment en fait, que Erdogan et Poutine se ressemblent parce qu'ils ont le même tempérament, autoritaire, certes, mais en même temps, il y a une véritable rivalité entre la Turquie et la Russie. Et ces dernières années, la Turquie a marqué des points au Karabakh, où la Russie a été obligée de reculer, en Ukraine, et en Syrie. Donc, quelque part, la Turquie est en train de faire en sorte, en fait, qu'elle met fin à un certain encerclement qu'elle avait vis-à-vis de la Russie. Et en cela, je pense que la Turquie est véritablement gagnante par rapport à la Russie. Et à mon avis, dans les mois à venir, la grande question, ce sera, est-ce que la Turquie va accepter, œuvrer pour ou contre le maintien d'une base militaire russe en Syrie? La question sera là, en fait. Voilà. Pour répondre à votre autre question par rapport à la médiation entre la Turquie, entre l'Éthiopie et la Somalie, là aussi, ça montre à quel point la Turquie devient un acteur important en Afrique. Il se trouve que depuis 2 ans, je travaille sur un nouveau projet de recherche qui est la Turquie en Afrique. Je pense que la Turquie fait partie de ces nouveaux pays qui s'implantent solidement. Et l'avantage de la Turquie par rapport à d'autres pays qui viennent, comme la Chine ou comme la Russie ou comme d'autres, c'est qu'en fait, elle a une stratégie multidimensionnelle, multivectorielle. Il y a une dimension éducative, religieuse, militaire, économique, politique, à tous les niveaux. Et de ce fait, je pense que la Turquie, une fois de plus, elle profite, et ça c'est important à noter, elle profite du déclin des puissances internationales classiques et ne fait que s'implanter dans un monde multipolaire. Et là, finalement, on le voit très bien en Afrique, c'est-à-dire qu'elle vient, parce qu'en fait, il y a une espèce de nouveau panafricanisme, un nouveau nationalisme africain qui veut se débarrasser des puissances coloniales traditionnelles. Et en fait, la Turquie vient en profiter, elle leur propose un nouveau partenariat, ce qui intéresse ces pays, parce que ce qu'ils veulent ces pays, ce n'est pas complètement mettre fin à toute coopération avec les puissances occidentales, mais c'est multiplier, diversifier les partenariats. Et en cela, la Turquie devient un acteur intéressant, aussi bien en Afrique qu'au Nation centrale et au Moyen-Orient.
Et donc intéressant et même, je dirais, incontournable pour poursuivre petit peu vos réactions à vous trois. Évidemment, d'un mot, en raison du monde multipolaire qui sert finalement, entre guillemets, cette indépendance qu'a la Turquie à l'égard des grandes puissances. Merci beaucoup, Behram Balsi, chercheur au série Sciences Po. Merci, Marc Pirini, qui était en ligne avec nous, chercheur au think tank Carnegie Europe, ancien diplomate européen. Et merci à Gilles Doron-Soreau, professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Florence Ponce était à la préparation de ce débat. Merci à elle. Hélène Avril à la réalisation. Et puis rendez-vous sur rfi.fr pour le réécouter dans son intégralité, ce débat du jour. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale. Dans une minute, ce sera Adrien Delgrange pour le grand journal du soir. Il sera notamment question de la situation à Mayotte. Et puis juste après, ce sera Afrique Soir, la première édition. Bonsoir Charlotte de Rouen.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous. Qui sera le prochain ballon d'or africain? Le suspense prendra fin ce soir. La cérémonie de remise des prix commence en ce moment, à Marrakech, parmi les 5 joueurs encore en lice, le Marocain Achraf Hakimi, l'Ivoirien Simon Adingra, le Nigérian Adenola Lokman, le Guinéen Serou Girassi et le Sud-Africain Ronwen Williams. Dans une demi-heure, nous évoquerons aussi cette réunion aujourd'hui à Yaoundé des États membres de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, dans un contexte difficile. Et puis retour aussi sur l'annonce hier de la CEDEAO de la création d'un tribunal spécial pour juger les crimes commis en Gambie sous la dictature de Yahya Jammeh.
Eh bien, merci Charlotte de Rouen. On vous retrouve dans 30 minutes sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute. Adrien Delgrange, dans quelques instants, le grand journal du soir sur RFI.